Actualité.
Oui, alors nous avons une invitée qui est en retard, alors j'espère qu'on va pouvoir rejoindre à Québec Samuel Gagné. Il n'est pas là. Oui, il est là. Samuel, bonjour, bienvenue à l'émission. Samuel Gagné qui attend un petit peu dans mes papiers. Je suis un petit peu mêlé parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Ça, c'est la radio en direct. Là, ça arrive.
Aucun problème.
Bon, alors, je voudrais qu'on parle de la prévalence des agressions sexuelles chez les personnes de la diversité sexuelle et de genre est plus élevée que dans la population générale. C'est un phénomène qui inquiète car les répercussions peuvent être graves alors qu'on le sait, le traitement de ces personnes n'est pas toujours accessible. Samuel Gagné, donc, est doctorant en psychologie, en recherche et en intervention à l'Université Laval. Bienvenue à l'émission, Samuel.
Merci beaucoup.
Alors, on utilise quel pronom et quels accords avec toi?
Il, accord masculin.
Parfait. Allons-y. Quelle est justement la prévalence des agressions sexuelles chez les personnes de la diversité sexuelle et de genre?
En fait, la prévalence des agressions sexuelles chez les personnes plus de la diversité sexuelle, pour ce qui est des personnes qui s'identifient au genre masculin, selon une étude faite par Statistique Canada en 2020, qui a été publiée en 2020, c'était qu'environ plus du quart des hommes des minorités sexuelles ont indiqué avoir été agressés sexuellement, contrairement à un homme hétérosexuel sur 10. Donc, on voit quand même là, une différence assez prévalente. Puis, au niveau des femmes de la diversité sexuelle, on parlait plutôt d'une personne qui s'identifiait au genre féminin sur 2, contrairement à une personne sur 3 pour les personnes hétérosexuelles. Alors, on voit vraiment la différence là, de prévalence au niveau de la diversité sexuelle versus les personnes hétérosexuelles. Il faut dire aussi que certaines identités sont plus à risque de vivre des agressions sexuelles, notamment les personnes bisexuelles qui étaient 3 fois plus susceptibles d'avoir été agressées sexuellement par un partenaire intime au cours de leur vie, contrairement aux personnes hétérosexuelles. Alors, évidemment, là, c'est très prévalent. Pour ce qui est des personnes qui s'identifient à la diversité de genre, les données sont un peu plus limitées, mais il y a quand même quelques études récentes là, qui ont fait état de la situation. Donc, on parlerait pour les personnes trans ou les personnes non-binaires qu'il y aurait environ une personne sur 2 qui aurait vécu une agression sexuelle. Évidemment, on aurait besoin d'études supplémentaires là, pour être plus certain à ce niveau-là, là, des niveaux de prévalence pour ce qui est des personnes non-cisgenres.
Oui, parce qu'en effet, il semble que les études ne sont pas très, très nombreuses. Hein, sur même déjà sur nos communautés, c'est déjà pas beaucoup, c'est encore. Alors, donc, il y aurait des sondages, des études à faire. Alors, comment on explique le phénomène quand même? Parce qu'on voit quand même qu'il y a plus de violence au niveau sexuel, du moins, plus de violence sexuelle envers les personnes de nos communautés. Comment on explique ça?
C'est certain que c'est multicomposante dans l'éducation possible. Fait qu'on pourrait passer un séminaire de 45 heures là-dessus, là, ça c'est certain. Mais pour en nommer quelques-unes, il y a évidemment la discrimination et la stigmatisation vécue par les personnes de la diversité sexuelle ou de la pluralité des genres qui est encore présente aujourd'hui. Il y a des personnes agresseuses, agresseurs qui pourraient cibler des personnes non hétérosexuelles ou non cisgenres en raison de leur identité. Donc, évidemment, ça joue un peu dans le contexte de discrimination et tout ça. Il y a également l'isolement social, hein, comme on le sait dans la littérature, parfois les personnes non cisgenres et non hétérosexuelles peuvent avoir des conflits familiaux en raison de leur coming out ou en raison de d'autres circonstances de vie. Donc, en étant plus isolé, là, on est effectivement plus à risque de vivre des agressions. Alors, c'est quelques explications possibles. Évidemment, il y a tout le contexte des préjugés, des mythes, du manque d'éducation lié à la santé sexuelle et aussi au consentement, qui sont des facteurs là, qui peuvent avoir un impact sur les agressions sexuelles.
Maintenant, bon, on voit que tu as fait beaucoup de travail et beaucoup de recherches là-dessus, mais il y a des conséquences à ça. Quelles sont les conséquences de ce genre d'agression-là?
Les agressions sexuelles ont plusieurs conséquences, effectivement. Là, on parle de conséquences psychologiques, physiologiques. On parle de conséquences sociales également. Pour en nommer quelques-unes, au niveau psychologique, on peut parler de symptômes dépressifs, donc de sentiments persistants de tristesse, de désespoir ou de perte d'intérêt pour les activités quotidiennes. Sinon, au niveau de l'anxiété, on peut parler de peur ou d'inquiétude face aux relations vécues. Puis, évidemment, le trouble de stress post-traumatique, donc comme les agressions sont une expérience potentiellement traumatisante, il est possible d'avoir des flashbacks, des cauchemars ou même de l'évitement lié aux situations. Conséquences physiques, il y a certaines études qui parlent de douleurs chroniques reliées aux agressions vécues. Troubles de sommeil, problèmes de santé sexuelle également lors de prochaines relations sexuelles. Conséquences sociales, on a parlé de l'isolement tout à l'heure pour les personnes LGBT, mais de manière large, là, les personnes qui vont se retrouver dans des contextes d'agression peuvent être plus isolées, avoir des problèmes relationnels avec leurs proches et se sentir stigmatisées, donc la peur d'être jugée en raison de l'agression vécue. Fait que c'est des nombreuses conséquences, là. Bien évidemment, encore une fois, on pourrait passer plusieurs heures là-dessus. Ça fait pas un tour complet, mais c'est pour vous donner une idée, là, des conséquences possibles.
Mais en temps normal, une personne, je sais pas, en tant que psychologue, parce que j'imagine que tu fais quand même de l'intervention, même si tu es aux études, qu'est-ce que tu dirais qui est la conséquence la plus forte que tu vois ou la plus fréquente que tu vois?
Que je vois beaucoup de mes expériences de stage, je dirais que c'est beaucoup au niveau de la culpabilité. Les gens vont beaucoup s'approprier le blâme de l'agression vécue. Puis c'est ce qui fait que c'est très difficile d'aller chercher des services. Ils ont peur que les intervenants confirment ce blâme-là. Fait que c'est un peu ça là, que je dirais qui revient beaucoup là, au niveau des conséquences.
On dit souvent que lorsqu'une personne est victime d'une agression sexuelle, déjà dans un contexte hétéro, c'est toujours très difficile parce que plusieurs fois, la victime ne veut pas, ne peut pas. Quand je dis ne peut pas, c'est parce qu'il y a tout plein de contraintes, qu'elles soient psychologiques ou physiologiques. La personne ne peut pas ou ne veut pas se plaindre, ne veut pas aller chercher de l'aide parce qu'on a honte. Est-ce que ce sentiment de honte-là est aussi fort et peut-être même pire à cause de l'homophobie internalisée ou intériorisée qu'on vit?
Oui, évidemment, il y a des liens avec l'homophobie, qu'elle soit internalisée ou externalisée. En tant que personne gay, on peut avoir peur qu'une relation entre deux hommes où il y a eu une agression soit banalisée par des intervenants, puisque, bon, une agression, c'est juste une mauvaise expérience. Évidemment, là, je mets des gros guillemets qu'on peut pas
Oui.
voir vu qu'on est à la radio, là,
Oui.
mais ça fait partie des préjugés, là, qui peuvent avoir un impact, là, évidemment, sur le sentiment de stigmatisation.
Et ce qui pourrait peut-être vouloir dire que beaucoup de ces agressions ne sont pas rapportées justement par crainte de cette homophobie. Maintenant, où est-ce qu'on peut trouver de l'aide? Là, d'abord, on sait que les gens vont hésiter quand ils sont victimes à aller se plaindre à la police, à aller chercher de l'aide à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, comment les gens peuvent aller se trouver de l'aide pour se sortir de ce qu'on a décrit comme étant les conséquences là, d'une agression sexuelle?
Oui, ben il y a plusieurs ressources qui existent là au Québec. Évidemment, c'est des ressources plus généralistes au niveau des agressions sexuelles. Ce ne sera pas très spécifique pour les agressions sexuelles dans un contexte de personnes de LGBTQIA+. Mais il y a tous les CALACS qui offrent des services pour les agressions. Puis il y en a certains qui ont des spécialisations au niveau de la réalité des personnes de LGBTQIA+. Donc, on peut aller chercher des ressources de ce côté-là. Évidemment, tout ce qui est psychothérapie, hein, on peut choisir un professionnel qui se montre comme allié de la communauté. On peut faire un peu un magasinage, si on veut, pour se trouver un psychologue qui est un allié de la communauté. Puis, il y a évidemment le traitement résilient, qui est un traitement qu'on développe là, au sein de mon laboratoire, en fait de ma directrice de recherche qui est Geneviève Belleville. Le traitement résilient, c'est un autre traitement en ligne qui vise les conséquences psychologiques comme les symptômes de stress post-traumatique, anxieux, dépressif et les difficultés de sommeil. Le traitement est en cours d'étude, donc si jamais les personnes intéressées veulent participer au projet d'étude, je les invite à nous contacter soit par courriel à info@commercialresilient.ulaval.ca ou à rechercher Résilient Ulaval sur Google. Là, tantôt j'ai fait le test puis on arrivait directement aux bonnes places. Il faut savoir qu'en ce moment, on recrute des hommes et des femmes et des personnes non binaires qui s'identifient à la communauté de LGBTQIA+ pour nos projets de recherche.
Donc, on parle d'un projet de recherche, mais mettons que quelqu'un a besoin d'aide. Est-ce qu'il y a des services? On peut appeler peut-être Interling ou on peut, puis vont référer à des programmes?
Certainement, les organismes communautaires LGBT, par exemple, le Centre de solidarité lesbienne, Réseau, Interligne, il y a différentes lignes d'écoute également qu'on peut appeler qui peuvent nous référer à des services plus spécialisés en agression sexuelle.
Mais les gens qui font appel à tes services vont non seulement avoir de l'aide, mais vont contribuer donc à une recherche importante. Qu'est-ce que tu veux démontrer avec cette recherche-là éventuellement?
En fait, ce qu'on veut savoir, c'est les besoins d'adaptation au traitement en ce moment offert en psychologie pour la communauté de LGBTQIA+. Donc, en partant, les personnes vont justement nous aider à voir les besoins d'adaptation pour les traitements, pour les agressions sexuelles chez les personnes LGBTQIA+.
Et c'est pour des personnes partout au Québec ou parce que là, je sais que tu es à
Oui.
l'Université Laval à Québec, donc on peut te rejoindre de partout au Québec.
Oui, c'est un projet qui s'offre partout au Québec, partout dans la francophonie. Il faut savoir que c'est une plateforme en ligne qui est française. Donc, peu importe dans le monde, on recrute des gens.
Ah oui, OK, partout. Alors, il va y avoir, j'imagine qu'au bout du compte, on va faire des distinctions entre les différentes, ce que j'utilise toujours le mot intersectionnalité, mais en tout cas, le différentes identités. Quelqu'un peut être queer et aussi appartenir à une autre identité. Donc, ça aussi, ça va permettre de faire ces études-là. Parce que présentement, il n'y a pas beaucoup d'études. Hein. On l'a dit, on a quelques statistiques, mais il n'y a pas beaucoup d'études sur les agressions sexuelles envers des personnes de nos communautés.
Effectivement, au Québec, c'est un peu plus limité. Il y a bien sûr quelques études qui sont en cours présentement, que ce soit au sujet des agressions sexuelles ou de la violence conjugale. Je pense notamment à Valérie Roy à l'Université Laval qui travaille beaucoup en violence conjugale LGBT, où il peut y avoir des agressions sexuelles également. Donc, oui, il y a un petit manque au niveau des études sur les agressions sexuelles, mais je dirais qu'il y a des bons chercheurs et chercheurs qui font des études en ce moment-là pour pallier à ces manques.
Samuel Gagné, donc on répète comment te trouver?
Oui, ça peut être sur les réseaux sociaux, LinkedIn, ResearchGate, Samuel Gagné, ou sinon, les personnes intéressées peuvent nous écrire à info@commercialresilient.ulaval.ca.
Merci beaucoup, Samuel Gagné.
Merci beaucoup.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.